Vous écoutez France Culture et le journal ce matin est présenté par Sébastien Berriot. Bonjour Sébastien.
Bonjour Benoît Bouscarel et bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, le mystère autour de la mort de Jeffrey Epstein aux États-Unis. L'homme d'affaires a été retrouvé mort dans sa prison à New York ce week-end. A-t-il été tué? Des théories du complot ont circulé tout le week-end, entretenues notamment par Donald Trump. On sera à New York avec Loïc Loury.
Les Syriens de France opposés au régime de Damas veulent profiter de la visite de Vladimir Poutine dans une semaine au fort de Brégançon pour faire passer un message. Une association appelle à envoyer le maximum de faire part dans la résidence d'été d'Emmanuel Macron pour dénoncer la responsabilité de la Russie dans la mort de civils syriens.
L'inquiétude des addictologues en France après une proposition de loi de la majorité qui vise à autoriser ponctuellement les ventes d'alcool dans les stades. La ministre de la Santé nous dira Ilan Malka, elle-même se dit opposée à cet assouplissement de la loi Evin.
Et puis quelle stratégie pour le Rassemblement national en vue des prochaines élections municipales? Le RN prêt à se mettre en retrait dans les villes les plus compliqué, analyse à suivre de Nicolas Ballu.
Deux enquêtes sont ouvertes aux États-Unis, l'une par le FBI et l'autre par le ministère de la Justice pour tenter de comprendre les conditions du mystérieux décès de Jeffrey Epstein. L'homme d'affaires inculpé notamment pour exploitation sexuelle de mineurs a été retrouvé mort ce week-end dans sa cellule de prison à New York. La thèse du suicide est évoquée. Le financier réputé proche des puissants n'était plus sous étroite surveillance depuis quelques jours malgré une possible première tentative de suicide. De quoi faire circuler des théories du complot sur les réseaux sociaux, théories reprises tout au long du week-end par Donald Trump. C'est une correspondance de Loïc Loury.
Jeffrey Epstein possédait des informations sur Bill Clinton et maintenant il est mort, nous savons qui a fait ça. Voilà l'un des messages relayés par le président américain sur Twitter. Aucune preuve, sinon la certitude que Bill Clinton connaissait effectivement l'homme d'affaires. Des propos critiqués notamment par plusieurs candidats démocrates à la présidentielle comme Cory Booker.
Ce qu'il fait est dangereux. Il donne vie non seulement à des théories du complot, mais il fait aussi monter la colère parmi la population et pire, contre certaines personnes dans ce pays.
Ou Beto O'Rourke.
Un autre exemple de notre président utilisant sa position pour essayer de vous forcer, vous et moi, et nous tous, à nous concentrer sur son comportement bizarre. Il change de sujet et si on lui permet de le faire, alors on ne pourra jamais se concentrer sur les vrais problèmes.
Mais comme une traînée de poudre, le mot-clé Epstein murderer, Epstein assassiné a fleuri sur les réseaux sociaux autour d'une base solide, un homme d'affaires. D'abord Jeffrey Epstein connecté aux personnalités les plus influentes et puis ce suicide impensable selon de nombreux experts. Le New York Times hier révélait ainsi que contre toute logique, les procédures de surveillance n'avaient pas été suivies, notamment des rondes toutes les 30 minutes. Mais peut-être les gardes dont il était laxiste, peut-être Epstein bénéficiait-il de privilèges. Deux enquêtes sont en cours. La médecin légiste en chef de New York, elle réclame plus d'informations avant de rendre ses conclusions suite à l'autopsie. De quoi alimenter un petit peu plus les théories du complot.
En Italie, Matteo Salvini veut aller très vite après avoir demandé en fin de semaine dernière des élections anticipées. Son parti, la Ligue d'extrême droite, a déposé une motion de censure au Sénat contre le président du Conseil. On doit connaître dans la journée la date du vote. L'objectif de Matteo Salvini est de pouvoir gouverner seul sans son partenaire au sein de la coalition. Le mouvement donc 5 étoiles. Les Syriens de France, opposés au régime de Bachar el-Assad, veulent profiter de la visite de Vladimir Poutine au fort de Brégançon pour dénoncer les raids menés par l'aviation russe sur le territoire syrien. Le président Poutine est attendu lundi prochain dans le Var pour une rencontre avec Emmanuel Macron. Le collectif pour une Syrie libre et démocratique lance un appel à l'envoi de courriers au fort de Brégançon, des lettres en forme de faire-part, Nathanaël Charbonnier, en souvenir des civils tués fin juillet lors d'un raid mené par Moscou et Damas sur une petite ville de la région d'Idleb.
Dans le faire-part qui sera envoyé, on trouve les noms de Lama Tanari, Iman Nartan, Ahmed Garid, au total 44 personnes. 44 femmes et hommes tués le mois dernier par des bombes, alors que tous étaient rassemblés sur la place du marché de la ville de Marat al-Nouman. Ces 44 noms, le collectif pour une Syrie libre souhaite qu'ils soient mentionnés dans les courriers qui seront adressés au chef de l'État sur son lieu de vacances. Car il s'agit à la fois de ne pas oublier le nom de ces morts civiles, mais aussi de faire pression réactions sur les discussions qui auront lieu entre les deux présidents. Michel Morzière, porte-parole du collectif.
Pour nous, ce qui est très important, c'est que le 19 août à Brégançon, que le président Macron ne donne pas d'absolution à Vladimir Poutine pour les crimes qu'il commet journellement en Syrie. Moi, je crois, on sait aujourd'hui que Vladimir Poutine, c'est lui qui a les clés pour l'avenir de la situation à Idlib et à la Syrie en général. Et c'est à lui à garantir le cessez-le-feu à Idlib.
Et les lettres sont à envoyer au président de la République Emmanuel Macron au fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas. La liste et la trame du courrier sont à retrouver sur le compte Facebook du collectif pour une Syrie libre.
L'ONU s'inquiète de l'aggravation de la situation humanitaire au Yémen après de nouvelles violences hier qui ont fait 40 morts et 200 blessés selon les Nations Unies. C'est l'Arabie Saoudite qui a mené des frappes sur la région d'Aden.
Vous écoutez France Culture, il est 7h06, la suite du journal de Sébastien Berriot. En France, peut-on autoriser les ventes d'alcool dans les stades? Le sujet divise la majorité.
Oui, normalement, la loi Evin interdit de vendre de l'alcool dans un stade en France, mais à la fin du mois de juillet, 105 députés LREM ont déposé une proposition de loi qui vise à assouplir cette interdiction, à autoriser les ventes de manière ponctuelle. Grosse inquiétude des addictologues qui considèrent cette évolution comme dangereuse. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle aussi déclare y être opposée. Les députés LREM qui ont déposé la proposition, eux, se défendent et évoquent un texte modéré et équilibré. Ilan Malka.
Pas question d'abroger la loi Evin, c'est ce que promet notamment Cédric Roussel, l'un des députés LREM qui porte cette proposition de loi.
Il n'y a pas du tout de volonté ici de rétablir la vente d'alcool dans les stades.
L'idée de la proposition, c'est que les clubs professionnels puissent désormais avoir légalement un droit qui est déjà ouvert aux clubs amateurs, à savoir pouvoir obtenir des dérogations pour vendre de l'alcool 10 fois par an dans les stades. L'objectif, permettre aux clubs sportifs de s'autofinancer.
Dans la limite de ces 10 autorisations, ça permettra des rentrées d'argent supplémentaires qui sont destinées à d'autres actions de sensibilisation ou soit d'autres services dédiés aux supporters, aux spectateurs.
Autre argument du député, les clubs professionnels utilisent déjà leurs associations pour vendre de l'alcool. Il s'agit donc en quelque sorte de mettre fin à une hypocrisie. Pas suffisant du tout pour rassurer les addictologues. Pour eux, il est hors de question d'assouplir la loi Evin. Amine Benyamina est président de la Fédération française d'addictologie.
On a des exemples très clairs, vous allez en Allemagne, vous allez en Grande-Bretagne, on l'a bien vu. Et on le sait que l'alcool désinhibe, notamment lorsqu'on a affaire à des jeunes. Et on a vu la corrélation entre alcool-violence à plusieurs reprises.
Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a pris position dans le débat et de façon claire. L'alcool tue 41 000 personnes chaque année dans notre pays. Ne laissons pas de nouvelles incitations à la consommation d'alcool se rendre complices de ce bilan, a-t-elle écrit sur Twitter. Les addictologues attendent maintenant que le débat soit tranché une fois pour toutes par le Premier ministre lui-même.
Merci Ilan Malka. Le Rassemblement National peaufine sa stratégie pour les municipales 2020. Louis Alliot, lui-même candidat à Perpignan, évoque un été Tupperware. Ça veut dire que le parti multiplie les rencontres cet été à la recherche de partenaires, des personnalités extérieures notamment. La stratégie, c'est de se mettre en retrait dans certaines villes au profit de ces personnalités pour pouvoir se concentrer sur les municipalités les plus accessibles pour le RN. Analyse de Nicolas Balu.
Le Rassemblement National a décidé de se focaliser sur les villes de plus de 20 000 habitants et de se concentrer là où il est déjà fort électoralement. Inutile de se disperser ou de se retrouver avec des élus, des conseillers municipaux mal formés puis démissionnaires, comme ce fut le cas pour 1/5 des élus RN après les dernières municipales. Ailleurs, ce sera le soutien à une autre tête de liste. Valran de Saint-Just à Paris avait obtenu à peine plus de 6% des voix en 2014. Eh bien, le RN soutiendra désormais un candidat libéral, Serge Federbouch. Son parcours intrigue. Cet énarque a été conseiller de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris. On le retrouve apparenté UMP en 2008, puis aux côtés de Charles Becbédé lors de la municipale de 2014. Sa liste devrait comporter quelques candidats RN dans plusieurs arrondissements, mais il ne ferait pas l'unanimité en interne. Serge Federbouch est surtout le chantre de l'Union des droites. Ça n'est pas exactement ce que souhaite Marine Le Pen, mais sa candidature est censée illustrer la démarche d'ouverture du Rassemblement national. Plus prosaïquement, elle peut permettre également des rapprochements avec d'autres indépendants. pas avec des élus. Les Républicains, reconnaît Valeran de Saint-Just, au contraire de ce qui se passe en province cet été, assure l'ex-candidat à la mairie de Paris.
Les prévisions de Météo France pour ce début de semaine, de la pluie et des orages sur une large partie du pays. Température cet après-midi, 16 degrés dans l'Orne, 20 à Bayonne et 27 à Nice.